L'élection surprise de Donald Trump. Nous écouterons quelques réactions de Calédoniens. Une élection qui aura choqué beaucoup d'Australiens, mais Canberra affiche sa bonne volonté et sa confiance, nous dira Caroline Lafargue depuis Melbourne. Le rassemblement des indépendantistes et nationalistes, amer que n'ait pas été réglée la liste référendaire au dernier comité des signataires, c'était samedi. Un blogueur suisse aux 10 000 fans pour faire la publicité du tourisme à la calédonienne. Et puis le basket et la victoire des hommes de la S6e sur le Mont-d'Or hier. Tels sont les titres de ce journal. Merci d'être avec nous ce midi. Il deviendra donc le 20 janvier prochain le 45e président des États-Unis. Donald Trump a déjoué tous les pronostics. Les instituts de sondage et les analystes politiques sont pointés du doigt face à leur manque criant d'anticipation. Partout, c'est le même constat, la surprise. C'est le cas aussi chez nous, où les Calédoniens ne s'y attendaient pas. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin pour nous dans les rues de Nouméa par Isabelle Pelletier.
Je croyais que c'est Madame Clinton qui va remporter, mais enfin... Bon, quand quelqu'un est élu, c'est que c'est le peuple qui l'ont élu. Même si ils ont dit du mal de lui, s'il a été choisi, c'est le choix. J'ai un peu peur de sa façon de parler. Il est un peu virulent. Oui, il est un peu grossier.
Je pense qu'il faut se méfier des sondages d'opinion de certains journalistes engagés et que, pour une fois, le peuple s'est exprimé très clairement. Ça changera peut-être des choses sur la politique en général, mondialiste, et que l'Amérique aura lèvera un peu plus la tête.
C'est un homme qui est raciste, il est sexiste, il est fou, et on va l'avoir au pouvoir et on va en subir les conséquences. Il faut que l'Europe soit très solide là.
J'ai pas d'avis tranché étant donné que je ne suis pas expert en géopolitique américaine. Tout le monde a été surpris, cependant, peut-être que les Américains étaient déçus par les précédents politiques et ont souhaité partir vers l'inconnu. Son personnage est construit autour de fables. La vérité, bizarrement, est très peu ressortie, mais malheureusement, on ne peut pas aller à l'encontre d'un système électoral tel qu'il est construit.
J'espère qu'il y aura du changement, puis promettre ce que les autres n'ont pas fait, les autres présidents.
Alors, Donald Trump, président, fera-t-il ce qu'a dit Donald Trump, candidat? C'est bien sûr la question que tout le monde se pose. Le nouvel élu a fait campagne sur un retour de l'Amérique sur son territoire. Alors, quid de l'Asie, où Obama entendait se positionner de plus en plus? Les Chinois en embuscade doivent-ils se frotter les mains? Et quid aussi de l'environnement? Trump a dit vouloir revenir sur la COP21. Alors, les pays d'Océanie, notamment, peuvent-ils encore espérer éviter les désastres prévisible du réchauffement climatique? Autant de questions qui interrogent tout particulièrement notre partie du monde. Voyons avec Caroline Lafargue depuis Melbourne comment est vécue par la classe politique australienne cette élection surprise de Trump.
Les liens entre l'Australie et les États-Unis resteront, je cite, forts et intimes. C'est ce qu'a promis Malcolm Turnbull. Le Premier ministre a tenu à rassurer les Australiens, je cite, quand un président arrive au pouvoir, il est confronté aux réalités stratégiques. Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères, ne compte pas sur ce déclic de Donald Trump. Le nouveau président est un isolationniste. De nombreux experts prédisent un possible désinvestissement de Washington dans la région Asie-Pacifique. Et Julie Bishop a donc déjà indiqué qu'elle ferait valoir, je cite, au plus vite, au nouveau gouvernement américain, les intérêts de l'Australie dans la région, surtout en matière de défense. Autre sujet de préoccupation pour Canberra, Trump ne veut plus du libre-échange et sa victoire anéantit les négociations du Trans-Pacific Partnership, l'accord de commerce entre les pays du pourtour du Pacifique. Les agriculteurs australiens espéraient un meilleur accès au marché américain pour vendre leur bœuf, leur lait et leur blé. Julie Bishop a signalé qu'elle continuait ses pressions sur le Congrès américain pour qu'il ratifie le TPP avant la prestation de serment de Donald Trump le 20 janvier. Melbourne, Caroline Lafargue, ABC Radio Australia pour NC Première.
Et le ministre du Commerce, Steve Chiobo, a appelé les Australiens au calme. Ne commencez pas à faire de l'hyperventilation, a-t-il déclaré. Et puis en France, 4 mois après l'onde de choc du Brexit en juin dernier, Paris hésite entre prudence et mise en garde. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude, affirme François Hollande. Quant à Manuel Valls, il dit lui que la France n'est pas à l'abri d'une victoire des peurs et de la démagogie, le Premier ministre qui promet de rendre fierté et espoir aux Français. Fin de citation. Sur le front des feux de brousse, un incendie en cours depuis hier soir sur la propriété Lérault, sur la route du Mont Mou à Païta Nord. C'est en face des vestiges du petit train. 150 hectares ont déjà brûlé. La commune limitrophe a prêté ses pompiers. Le feu est en évolution libre avec une vitesse de propagation lente en raison des vents faibles. Heureusement, des maisons sont situées sur la propriété, mais elles ne sont pas menacées pour le moment. Retour sur le comité des signataires pour le RIN ce matin. Le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes exprimait son point de vue après le rendez-vous parisien de samedi dernier. Le RIN qui fait l'amer constat qu'aucun consensus n'a été trouvé sur la liste référendaire. Un point botté en touche par les élus au comité des signataires. Écoutez Sylvain Pabouty, élu de la DUS et membre du RIN.
D'une manière générale, on peut dire que ce comité de signataires est un non-événement. On s'attendait à des prises de décision qui engagent vraiment le pays, puisqu'on est à 2 ans donc, du référendum de 2018. Donc en ce qui concerne donc, la constitution de la liste référendaire, on aurait souhaité que, même avant de prendre une décision, mais que tous les éléments soient réunis pour pouvoir discuter, traiter de ce sujet qui est d'une importance capitale. Or, on constate qu'ils sont arrivés à Paris, on a juste un seul chiffre, c'est le 13 410, qui apparemment, même s'il n'est pas définitif, mais ça a quand même créé la surprise pour certains qui croyaient qu'on arriverait à un chiffre aux alentours de 2000 à 3000. Et là, par rapport aux 25 000 Canaques de Saint-Écoutumier non inscrits sur la liste référendaire, on s'y rapproche tout doucement, progressivement.
Le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes qui interpelle l'ensemble des partis indépendantistes pour qu'ils se prononcent sur le sujet à l'occasion de leur congrès respectif prévu ce week-end. Ils disent d'ailleurs attendre énormément de l'expertise juridique de l'État. Avant la fin de l'année, les propos de Sylvain Pabouty étaient recueillis par Cédric Wakaouniem. Notre santé à présent, si vous êtes parent notamment, vous avez forcément entendu parler de ces affections qu'on appelle les dyslexies, dysorthographies ou dyspraxies pour les plus connus, des troubles qui affectent la scolarité, qui peuvent être très handicapants. Mélanie Archimbault, pédopsychiatre, nous en parlait ce matin à 6h50. Elle était l'invitée de nos matinales en ce jeudi.
Les troubles 10, c'est des troubles qui touchent certaines fonctions comme le langage, l'accès à l'écrit, certains types de mouvements qui se développent de manière atypique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un retard ni dans une déficience. L'équipement moteur, l'équipement sensoriel marche bien, mais le développement, la fonction ne se fait pas comme elle devrait. Et donc ça handicape effectivement la scolarité, mais aussi et notamment dans le cadre des troubles du langage oral et de la dyspraxie, ça handicape aussi le quotidien.
Tous les enseignants sont sensibilisés aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie à cette problématique ?
Ça reste, on en entend de plus en plus parler, mais c'est vrai qu'on a tous, aussi bien le corps enseignant, mais aussi les professions médicales, à s'informer par rapport à ce sujet et on va essayer de faire des efforts dans ce sens.
La pédopsychiatre Mélanie Archimbault sur notre antenne ce matin qui répondait à Thierry Belmont. On connaît, vous l'avouerez, des métiers plus pénibles. Sylvain Nicolier est le blogueur d'un blog de voyage très populaire qui s'appelle Suisse-moi. Il se trouve actuellement chez nous. C'est un aventurier, Sylvain Nicolier. Il a lancé il y a 3 mois un concept de voyage participatif où les internautes lui lancent des défis concernant la prochaine destination qu'il entend mettre en place, pardon. L'idée pour lui, c'est d'être proche de la communauté des blogueurs qu'il suit, mais aussi d'être proche de la population du pays dans lequel il se rend. Alors son premier voyage retranscrit sur Suisse-moi, c'était au Togo. Et voilà qu'entre la Polynésie d'où il revient et le Vanuatu où il va s'envoler, Sylvain Nicolier s'offre une parenthèse calédonienne en collaboration avec Nouvelle-Calédonie Tourisme qui lui paye son voyage. Il fait le récit de ses expériences au micro d'Isabelle Pelletier.
Je me suis dit, mais tiens, je pourrais créer un concept de voyage participatif où c'est vraiment les internautes qui influenceraient mes aventures. Donc j'ai diffusé à la base des vidéos où je me mettais en scène en train de réaliser des défis que je m'étais fixé moi-même. Et ensuite, je me suis dit, bah voilà, prochain voyage, c'est le Togo. Et cette fois, c'est les internautes qui vont définir le contenu de mes aventures. J'ai trouvé un crocodile sacré, fait un check-up vaudou. J'ai amené aussi des spécialités suisses à faire déguster dans le marché traditionnel de Lomé. C'était vraiment des défis, mais tellement drôles. Ça fait maintenant 10 jours qu'on est en Nouvelle-Calédonie. On y reste encore 4 jours. On a fait un road trip dans la Grande Terre. On a été visiter Maré et l'île des Pins. On a fait des défis autant un peu sportifs, un peu culturels, culinaires. J'ai goûté, pour le plus grand plaisir des internautes, des vers de Bangkul crus, vivants, que je suis allé chercher moi-même dans la forêt. Belle expérience culinaire. C'était pas magnifiquement bon, mais c'était sympa. On était aussi boire du cava. Donc on a rencontré plein de gens en fait en réalisant ces défis. C'est un peu le but aussi. Et on a fait pas mal de sport. Là, je reviens, on vient de faire du wakeboard, wake surf. Et tout ça, c'était proposé par les internautes. C'était super de découvrir la diversité de la Grande Terre, et puis après d'aller sur les îles. Notamment, moi, j'étais halluciné par la beauté de l'île des Pins, le sable fin. Je pense que j'ai rarement vu un sable aussi fin.
Et tiens, si je me faisais payer mes vacances, c'est l'idée hein, qu'on ne peut qu'applaudir de ce blogueur qui compte sur son site Facebook 10 000 fans, sur Twitter plus de 4 500 followers. Elle était belle, l'émotion de ce jeune, hier matin au lycée du Grand Nouméa. Syria, 15 ans, est handicapé et il apprenait qu'il recevra avant Noël un nouveau fauteuil électrique dernier cri, un don du Lions Club et de l'AFM grâce auquel il pourra désormais se déplacer avec beaucoup moins de difficultés. Cédric Wakoniem assistait à la petite cérémonie au lycée hier.
Le regard attentif et épanoui, Cyriaque Lié est un élève hors du commun. En classe de seconde, le jeune lycéen a dû se battre pour suivre une scolarité comme tous les autres. De nature tenace, son handicap l'a permis de relever de grands défis.
Ça a été difficile dans les débuts en 6e. Mais maintenant ça va. C'est pas plus le regard. Ils sont déjà grands, les lycéens
et
plus matures.
Syriac est atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne. À 7 ans, tout s'arrête pour l'adolescent. Ses muscles se lâchent petit à petit. Un déchirement total pour sa mère Louisa, pourtant toujours plein d'espoir.
Même son frère et sa sœur et la famille qui sont autour. Et tout le monde le soutient. Même il est en fauteuil, on est toujours avec lui. C'est un garçon qui est motivé de plein de choses. Il aimerait faire comme tous les autres enfants, malgré son handicap.
Depuis 6 ans, le fauteuil électrique totalement vétuste de l'adolescent doit être renouvelé. Le Lions Club et l'AFM participent conjointement à l'achat d'un nouveau fauteuil. Un soulagement total pour le lycéen, très ému.
Avec mon fauteuil, ça sera plus pratique pour les déplacements. Il va un peu plus vite que celui-là. Et il a plus de technologie dessus pour les déplacements, tout ça.
Comme Syriac, Jean Francelin a également reçu son attestation. Les deux adolescents recevront leur nouveau fauteuil électrique le 15 décembre. De très beaux cadeaux avant Noël qu'ils n'oublieront pas de toute leur vie.
Les sports pour finir avec du basket hier soir à l'Arène du Sud et la domination une fois de plus de la S6e sur le championnat de Nouvelle-Calédonie. Après les filles vendredi dernier, hier ce sont les garçons qui remportaient leur finale 62 à 52 contre le Mont-d'Or. Un match très disputé, William Lecrain.
Premier titre territorial pour les garçons de l'S6e qui ont montré encore une fois leur motivation et confirmé leur adresse sur le parquet de l'Arène du Sud. Score final 62 à 52. Ils l'ont bien mérité, félicite Benjamin Naouya, l'entraîneur, en rappelant que ce titre leur échappe depuis 9 ans. On l'écoute.
Ah, très heureux, très heureux. On court après ce titre depuis trop longtemps. J'ai jamais eu en tant que joueur. Je prends l'équipe en main là depuis le début de l'année, vraiment en ayant enlevé les bas, en ayant retiré le maillot. Et on en va jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir, énormément plaisir pour tous les sacrifices, pour toutes les années passées à courir après. Ça fait réellement plaisir. Voilà, donc on va déjà terminer la saison. On a la Coupe de Calédonie à défendre d'abord. On est tenant du titre. Et l'année prochaine, voilà, on se projettera sur préparer les championnats d'abord et Tahiti après, étape après étape.
De son côté, le Mont-d'Or Basket Club a tout essayé pour perturber le jeu de l'A6e, mais il a commis trop d'erreurs et n'a pas su poser le jeu pour scorer sur ses temps forts. Manisso Aéria, le capitaine du Mont-d'Or.
On a essayé de faire notre mieux. On a fait un peu plus d'erreurs que la dernière fois, ce qui nous a mis dans le mou. Mais on ne regrette rien parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir, malgré qu'il y ait des gars d'expérience. Il y a des jeunes encore qui sont en phase de progression. Et l'année prochaine, je pense qu'on va faire très mal. Ben, moi, je pense que ça sera dans mon dernier match. Je l'ai annoncé dans les vestiaires aux joueurs et aux coachs. J'ai fait quand même 17 ans de carrière. La tête veut toujours, mais le corps dit stop. Donc, il faut savoir dire stop. Mais je ne regrette rien. J'oublierai jamais ce dernier match.
L'AS 6e champion de Nouvelle-Calédonie disputera la Coupe du Pacifique au mois d'octobre prochain à Tahiti.
Et chapeau donc à l'AS 6e.